Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Dandrel, qui est musicien, directeur fondateur du studio de design et d'architecture sonore Diasonic. Il dirige l'unité de design sonore à l'IRCAM. Il a été journaliste au Monde, directeur de France Musique, fondateur du Monde de la Musique et de Radio et fondateur de Radio Classique. Il est l'auteur de nombreuses installations, notamment à Hong Kong, l'installation intitulée Le Jardin des Sons, à Osaka, Le Jardin des Voix, à Rio, l'installation intitulée Fenêtre sur Ville, à Paris, l'installation Clepsydre, installée au bassin de la Géode. Il a composé aussi des scénographies sonores pour de nombreuses expositions, ou encore la nouvelle signalétique sonore de la SNCF, et des musiques et bandes sonores de spectacles, en particulier La Roue de la Musique 2000, aux Champs-Élysées, le soir du 31 décembre. Il vient de signer une composition musicale intitulée Le Chant des Étoiles, que vous pouvez donc trouver dans les bonnes discothèques. Et il vient de publier en cette année un ouvrage qui s'intitule L'architecture sonore. Il a dirigé donc cet ouvrage, édité par le ministère de l'Équipement. Je vous remercie et je lui laisse la parole. Merci.
Bonsoir. Je tiens déjà à vous dire que le programme musical qui vous a accueilli, je n'en suis pas responsable, mais en fait, les hasards font bien les choses, puisqu'il va nous mettre immédiatement dans le cœur de notre sujet, qui est la musique multiple. Notre histoire, nous, elle va commencer il y a 4 ans, à Berlin, où s'est déroulée une cérémonie un peu particulière. C'était l'inauguration de la Potsdamer Platz, à l'occasion de la reconstruction de ce centre historique de la ville. Alors imaginez ce que peut être un immense chantier comme celui de Potsdamer Platz, c'est 7 hectares de béton. Et un samedi matin, dans le fond de cette fosse, il y a l'orchestre de l'opéra dirigé par Daniel Barenboim qui joue la 9e symphonie de Beethoven. Pour accompagner la 9e, il y a un ballet de grues que Barenboim dirige avec des petits drapeaux. Et alors l'ensemble est un peu curieux. Tout autour de la fosse, il y a des passerelles en bois où circule une foule assez importante. Et au moment où retentit l'hymne à la joie, je vais me permettre de faire un petit mime avec les bras, ça donne ceci, on entend non, 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 ni, ni, non, non, ni, non, non, ni, non, non, ni, ni. Et voilà, les bras des grues se mettent à bouger, à pivoter sur leur axe comme des soldats à la parade. Cette cérémonie, j'étais là, donc je l'ai enregistrée. Je vais vous en faire entendre un écho. L'enregistrement n'est pas excellent, mais il révèle assez bien l'ambiance qui pouvait se produire, car après la 9e symphonie, immédiatement s'est enchaînée une parade des corporations, des ouvriers, des milliers d'ouvriers, chacun précédé d'un orchestre, qui sa fanfare, qui sa musique militaire, et certains ouvriers étaient déguisés avec des casques prussiens. On a entendu de la techno, du jazz, de la samba. Donc voici un écho sonore de cette étrange cérémonie.
Thank you.
Bon, c'est une cérémonie, somme toute, assez banale. On en a connu à Paris, place de la Concorde, d'ailleurs, le même Barenboim a pu diriger dans des conditions un peu particulières du point de vue acoustique. Pour nous, cette cérémonie-là, elle est assez révélatrice, parce que on peut y retrouver tous les ingrédients de l'histoire musicale contemporaine. D'abord, on a ce qui est assez fréquent, le décor obligé pour toute manifestation du pouvoir, le décor obligé de la musique classique. Chaque fois qu'on a à donner un aspect solennel à une manifestation, qu'elle soit politique, économique, on a recours à la musique classique. Elle précède les discours officiels, elle suit les funérailles, etc. Alors, la musique classique, aujourd'hui, ne suffit pas à intéresser, donc il faut ajouter une partie spectacle. Le spectacle est aussi dans les ingrédients, aujourd'hui, des arts qui volontiers se mettent sous sa tutelle. Donc, on a une partie spectaculaire qui est donnée de façon un peu pathétique par ce ballet de grues, qui n'avait, entre nous, strictement aucun intérêt, même si les grues étaient géantes. Troisième aspect pour nous, c'est celui de la ville. On est dans un chantier, on est dans une ville en reconstruction, et cela nous dit que, depuis déjà un certain temps, la ville est devenue un immense lieu de concert, que la musique, elle est sortie de la salle, et aujourd'hui, elle est à peu près, on la retrouve partout, dans tous les lieux. Et qui dit ville et grande surface, dit forcément sonorisation. Ça, c'est notre quatrième élément. C'est l'attribut quasi universel de la musique aujourd'hui. La sonorisation est partout, sonorisation de puissance, égal à la surface urbaine convoitée. Plus on en veut, plus on fait fort. Et puis enfin, dernier point, qui lui maintenant est devenu aussi une sorte de classique de la musique, c'est le mélange de toutes les musiques, elles se côtoient joyeusement, c'est un carrousel. Voilà. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que, au-delà de l'événement, c'est constater qu'au XXe siècle, la musique s'est transformée beaucoup plus vite que pendant les 1000 dernières années. Transformation assez rapide, assez violente, et due principalement aux nouvelles conditions techniques de diffusion. C'est une banalité, tout le monde le sait, mais néanmoins on peut s'interroger sur ce phénomène-là. La musique, elle s'est répandue sur la surface totale de la Terre. Par un système de réseau hertzien, on a à notre disposition à tout instant les Inuits du pôle Nord, les Dong d'Asie, de Chine centrale, les Tuva de Mongolie. Toute cette énorme mémoire collective est là, dans l'instant, à notre disposition. Et la musique, elle se répand, elle est là, partout. Elle prolifère en genre, qui n'arrête pas de se multiplier. Les artistes en inventent pratiquement tous les jours. Si vous ouvrez votre transistor et que vous baladez sur la bande de modulation de fréquence, en 3 minutes, vous allez pouvoir entendre au moins 50 musiques différentes. Ce n'est pas la peine d'en faire l'inventaire. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit utile. Mais c'est ainsi. Les artistes en inventent, mais aussi derrière, bien évidemment, les industriels qui font fructifier leur marché. Petit exemple de cette prolifération-là, de cette croissance, comme on dit aussi en termes d'économie, il y a aussi une croissance en termes musicaux. Dans les années 90, en 5 ans, le nombre de chanteurs de variété en France a doublé en 5 ans. Alors, ce qui, pour moi, me paraît le plus significatif dans cette transformation due à cette diffusion technique, c'est l'intrication, le fait que la musique, elle soit inextricablement mêlée au flux de la parole et des bruits. Et ça, c'est véritablement le fait nouveau, et qui est en fait révélateur de la vraie situation originelle de la musique, qui ne peut pas être séparée de la vie. Elle fait partie de la vie. Pour moi, je crois que de tous les arts, celui qui est le plus commun, c'est la musique. parce que précisément, la musique, elle ne peut pas se séparer du vivant. On va écouter quelques exemples qui révèlent que la musique, en fait, ne fait que traduire un état fondamental d'échange qu'on retrouve à tous les niveaux du vivant. Prenons le cas de des signaux qu'émettent les animaux. Les naturalistes et puis les poètes, ils disent que les insectes chantent, et ils disent que les animaux chantent. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Je vais vous faire entendre quelques paysages sonores que j'ai enregistrés en forêt tropicale, en Amérique latine et dans le sous-continent indien. Et ces trois exemples, on peut les écouter avec une oreille musicale. Dans le premier, il y a un jeu de timbres, on entend des timbres percussifs. Dans le second, vous entendrez un jeu de hauteur. Chaque espèce d'oiseau se situe à une hauteur différente et donc il ne se masque pas. Et dans le troisième exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler un jeu d'enveloppe. Nous, en son, ce qu'on appelle une enveloppe, c'est la façon dont un son évolue dans le temps. Eh bien là, il y a un cri d'oiseau qui, sous une pluie battante, est si bien constitué, si bien adapté à son biotope qu'il est parfaitement audible. Pardon. Les hommes font pareil, ils cherchent à manifester leur présence à tout instant. C'est un peu plus compliqué parce qu'ils disent comment, pourquoi, quand, etc. Donc, ils utilisent un outil comme celui que j'utilise maintenant, à savoir la parole. Et la parole, lorsque elle a du sens, on en perd la musicalité. Mais il suffit qu'on se trouve en présence d'une langue inconnue. Et si en plus on ajoute un pays inconnu, tout d'un coup, sa valeur musicale se révèle. Et Barthes l'a décrit, mais sans avoir recours à Barthes. Je crois que nous avons tous fait cette expérience-là, de comprendre que, au-delà du sens des mots, il y a aussi une valeur musicale. Je vous ai fait un petit montage sur la parole. Ah, excusez-moi, j'avais oublié. Ça, j'avais mis en plus. C'est un lapin qui rêve. Parce que ce son, il est tellement sublime. Voilà, je l'ai inséré entre les deux. Donc, chapitre précédent, la nature. Voilà, ce son, on le doit à Knut Victor, qui est un musicien, plasticien, homme de 80 ans, qui a passé sa vie à l'écoute de la nature. Donc nous voici maintenant avec la parole.
Em minarete mate bate leve verde neve minueta de luar. Meia noite do segredo no penedo de uma noite de luar. Olhos caros de morgada e enfeitava com preparos de luar. Rompem fogo pandeiretas, morenitas, bailontetas e bonitas bailonchitas e jaquetas são de fitas de desafogo de luar.
É vilhet andetag e tilfellia tidsrymder. Et andetag som ur blodsdjup och stämband nått fram till synlighetens luftlager i vår längtan att andas ut i ett andetag där tiden stannar upp.
Depuis une quarantaine d'années, j'enregistre des villes dans le monde et je crois que je n'en ai pas trouvé une seule qui soit, du point de vue musical, stérile. Il y a toujours, à presque tout moment, une composition musicale qu'on peut extraire de l'endroit où on se trouve. Je me propose de vous faire entendre cinq tout petits paysages dans des villes différentes. La première, c'est le Caire. Le Caire, c'est une ville extrêmement peuplée, avec des contrastes extrêmement forts. Et là, on va faire une sorte de travelling sonore en partant d'un lieu calme qui est le bord du Nil. Et on va se rapprocher de la place de la gare. Évidemment, il y a une sorte de compression temporelle. On se rapproche de la gare et on va vers une école. Tous les sons que vous allez entendre, il n'y a pas eu de remixage. Ce sont des documents, elles sont simplement resserrées dans le temps, mais il n'y a pas d'ajout. Ça, c'est comme tout à l'heure pour le lapin. Je me suis refait le coup du lapin, si je puis dire, sans jeu de mots. Ça, c'est parce que j'ai voulu ajouter le babil des enfants au langage. Les enfants, naturellement, il n'y a pas encore de sens. Et là, j'ai trois babiles que je m'étais mis de côté en plus, donc je l'ai oublié. Le premier, c'est un enfant. Je ne dis pas les enfants. Le premier bébé de 10 mois est un Anglais, le second est un Chinois et le troisième est un Français. Voilà. Mais musicalement, l'ambitus des langues se retrouve totalement. L'anglais, c'est vraiment ce bébé anglais, plus vrai que nature, quoi. On sait à l'instant, que quand on entend simplement à la musique, que c'est un Anglais. Donc j'en viens à la ville du Caire. Rio, c'est une alternance douceur, violence, nature, ville, nature qui est très, très forte par la présence de la mer. Il suffit, quand on est au bord de Copacabana, d'un côté vous avez l'avenue et vous entendez la circulation qui est extrêmement forte, vous faites un mètre de l'autre côté et c'est la voie de la mer qui passe par-dessus la ville. Et en permanence, cette ville joue cette sorte de bascule entre cette violence et cette douceur-là.
Vamos lá, vamos lá. Acabou. 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 Acabou.
Paris, ça je dis rien parce que c'est un petit moment de poésie, puis vous connaissez aussi bien que moi. Du matin, la rentrée de l'école, et on capte ça. Tokyo, c'est une ville assez particulière, très difficile à comprendre du point de vue acoustique, parce qu'il y a des variations de volume considérables, des espaces bâtis complètement en hauteur, avec des réflexions importantes, et tout d'un coup des quartiers avec des maisons très basses, des petites ruelles. Et là, on va entendre un passage où je sors d'un train et je pénètre dans un tout petit quartier. Et ensuite, je me dirige vers un quartier de building avec une sorte de petite sonnerie. Tokyo a l'une des particularités, c'est qu'il y a au moins une centaine de designers sonores dans l'annuaire. Et notamment, ils produisent de ces petites choses, de ces petites musiques qu'on entend à peu près partout dans les métros. Et là, l'immeuble qui est important, qui s'appelle le Bell Building, a été donc dessiné musicalement par un designer japonais. Enfin, dernier exemple, Pékin. Il y a un moment là assez particulier d'une hybridation culturelle. Ce que vous allez entendre, je l'ai véritablement enregistré tel. J'ai pas triché, j'ai pas fait de mixage. Il était midi et je me suis fait tout petit pour pas qu'on me voie. Et voilà, j'ai attrapé ces sons-là. dans un jardin public, il y a un vieillard qui joue de son petit violon, le Hérou, et 2 minutes plus tard, on entend l'Ave Maria de Schubert diffusée à la radio dans une petite ruelle. Ça s'est passé comme ça. Et ça se passe tout le temps comme ça. La musique multiple, c'est ça aussi. Je crois que là, on arrive à l'hypothèse qu'a fait John Cage, ce compositeur américain, pour ceux qui ne le connaissent pas, mort maintenant, et qui, dans les années 50, a fait un concert de silence. Il a ouvert les portes de la salle de concert, et comme musique offerte aux auditeurs, c'était leur propre son, c'était les sons de l'extérieur. Ça a été une sorte d'acte fondateur, et pas seulement symbolique, parce que pendant que les sons de l'extérieur rentraient dans la salle de concert, je pense pour ma part que la musique en est sortie très vite et qu'elle s'est trouvée pas si mal dehors. Et à mon avis, c'est là qu'elle se fructifie. Et si j'insiste sur les villes, c'est qu'il est évident aujourd'hui qu'elles sont la matrice de toutes les musiques, du moins d'aujourd'hui, et aussi des musiques à venir. Et donc Cage a lancé cette formidable hypothèse que tout est musique, tout est musique. Alors on peut sans doute y ajouter un correctif, c'est que tout est aussi ma musique. Quand je suis dans une ville, le temps qui est là devant moi, c'est celui des événements qui s'enchaînent les uns aux autres, c'est un temps imposé. Pour pouvoir faire ma composition, ou simplement mon écoute, organiser mon écoute, j'organise le temps différemment. Je fais des prélèvements, je fais des sélections, je fais des choix. Je fais donc un certain ordre. Et c'est une sorte de jeu, comme le font les enfants. Et on a tous dans notre mémoire à quel point, lorsque nous étions enfants, nous faisions de la musique avec tout. Pour un enfant, tout est musique. Et probablement parce que, avec la musique, c'est une façon à la fois de connaître, c'est un moyen de connaître le monde, et c'est aussi un moyen d'enlever sa peur. C'est pour ne pas avoir peur qu'on fait de la musique. J'ai, moi, des souvenirs sonores personnels, pour ceux qui me connaissent, ils vont penser que je radote un peu parce que je les cite souvent, mais tous, nous avons des sons de référence. Les miens, je suis né un tout petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale, donc ça a été les bombes, ça a été les avions. C'est une ambiance qui est assez forte et sans doute qui m'a imposé un travail de musicalisation de l'environnement. Je vais vous faire entendre une toute petite séquence et qui sans doute rappellera quelques souvenirs à certains dans cette salle. Alors cette scène, je l'ai vécue, ça se passait au-dessus de notre jardin. Deux chasseurs se pourchassaient. L'un est parti en flammes, un parachutiste a sauté. Nous, les gamins, on a couru après, on a récupéré des bouts de parachute, des petits bouts d'ailes, et voilà. Donc je crois que nous avons tous, à l'intérieur de nous-mêmes, une sorte d'instrument intérieur qui résonne en sympathie ou parfois en antipathie, avec le monde extérieur. Mais quoi qu'on fasse de cet instrument-là, on ne peut pas nier un jour l'avoir possédé. Certains l'ont cassé. Il y a eu même de grands philosophes, Kant, qui haïssait la musique, Freud, qui s'évanouissait, qui s'est évanoui le jour où on l'a emmené à un concert. Donc, certains brisent cet instrument. Mais en tout cas, un jour ou l'autre, ils l'ont possédé. Et c'est ce don qui nous est fait dans l'enfance. Pour moi, je pense que la musique, elle est donc fortement liée à la vie, et c'est à ce titre-là qu'elle est extrêmement réactive au monde extérieur. Tout à l'heure, je disais que c'était parmi tous les arts le plus commun, parce qu'il reposait sur des fonctions vitales d'échange. Je crois pouvoir dire aussi que la musique est l'art le plus réactif au milieu physique, simplement, au milieu acoustique, au milieu physique. et aussi aux variations sociales, à l'imaginaire social. On a beaucoup d'exemples dans la musique contemporaine, qu'elle soit savante ou populaire. La musique rend coup pour coup. La ville, par exemple, nous donne des effets de puissance. Elle donne, parce qu'il y a une masse de sons considérable, il y a dans la musique une réponse, qui est celle donc de la puissance. On a des effets de vitesse. On trouve des correspondants dans la musique, avec des correspondances dans la musique, avec des émergences fulgurantes, extrêmement, extrêmement violentes. La ville nous donne des effets de répétition, on les trouve aussi dans la musique. Et socialement, c'est beaucoup plus subtil parce que l'imaginaire collectif, il s'écoute aussi. Et il se traduit dans quantité de petits phénomènes musicaux. Exemple, aujourd'hui, il y a une obsession pour le lisse, pour les surfaces lisses, les surfaces polies, pour le mouvement continu qui ne s'interrompt pas. Et on s'en rend compte dans le domaine de l'architecture. Il suffit de regarder les façades. On le voit sur les pistes de ski, sur nos trottoirs, avec les rollers qui passent. C'est ce goût du mouvement continu. Dans la musique, ça se traduit par des grandes nappes instrumentales ou des nappes de synthétiseurs. On a aujourd'hui le culte du méga, qui se traduit en musique par le grand son. C'est une invention, mais ça existe. Le multisource et le très grand son. On a d'autres cultes, on a le culte de l'énergie avec l'omniprésence du rythme, on a le culte de l'authentique avec un retour aux musiques traditionnelles, etc. etc. De tout cela, j'ai fait une sorte de petite composition qui s'appelle « La ville des villes » dans laquelle je me suis, je peux dire presque amusé, à faire un assemblage de tous ces signes sonores qui ont une interaction directe sur le langage musical. le monde aujourd'hui nous impose des adaptations. Des adaptations d'écoute et des adaptations d'imagination. En fait, il y a une démesure à laquelle nous ne sommes pas familiarisés. Et il se trouve que plus l'environnement sonore quotidien s'enrichit et plus l'oreille a tendance à se rétrécir, à se retirer. C'est un phénomène assez, assez curieux. Je crois que c'est dû probablement à une lassitude de l'oreille précisément en face de tous ces effets que j'ai pu citer et que nous ne savons pas, que nous ne savons pas analyser, que nous ne savons même pas entendre. L'oreille n'est pas très bien formée, elle est malheureusement un peu soumise à des prédateurs. Je ne veux de mal à personne, mais je pense qu'aujourd'hui, urbanistes, architectes et designers et aménageurs et paysagistes conjugués s'ingénient à nous faire un monde construit pour l'œil, mais assurément pas pour l'oreille. Assurément pas pour l'oreille. Donc on n'y trouve pas bien notre compte et on fait un peu comme les vieillards. Comme il n'y a plus grand-chose d'intéressant à entendre, eh ben, on entend moins. Et moins on entend, moins on a envie d'entendre, et voilà, et on se retire et on se rétracte. Il est possible de retrouver une certaine acuité auditive, et même une grande acuité auditive. Et la transformation de la musique aujourd'hui aussi, c'est que les musiciens ont trouvé le chemin des arts appliqués. Ils sont faits à l'instar de ce qu'ont fait il y a un siècle les peintres, les sculpteurs et les grands architectes. Ils se sont mis à travailler sur des choses quotidiennes. Et je pourrais dire même sur la voix des choses. C'est quoi la voix des choses? Le terme est emprunté à Marguerite Yourcenar qui raconte une petite nouvelle où lorsqu'elle était malade, un de ses amis est venu lui offrir un pendentif en jade qu'elle convoitait beaucoup. Et elle est maladroite, elle le regarde, elle le laisse tomber, le pendentif se brise et l'ami, au lieu d'en être fâché, lui dit « Elle est belle, la voix des choses ». Et je crois que ce mot, il est intéressant parce que un objet inerte est silencieux. Dès qu'il subit un choc, il entre en vibration et il nous envoie des signaux. Ces signaux-là, s'ils sont suffisamment riches, nous apportent des informations, nous disent la position de l'objet dans l'espace, nous disent sa matière, c'est du bois, c'est du métal, nous disent éventuellement sa forme, je suis creux, je suis plein, etc. Et si le signal est encore plus riche et plus intéressant, cet objet me deviendra cher et je dirai qu'il me parle. Et donc le mot « voix » est tout à fait utilisable dans ce contexte-là. Et il en va d'ailleurs de même pour les espaces. Les espaces habités, du moins, et tout espace est fait un jour ou l'autre pour être habité, la présence de quelqu'un apporte forcément du son et l'espace répond. Il peut avoir une réponse significative et il peut avoir une réponse très nulle, voire une réponse qui dégrade le dialogue, qui dégrade la parole. Donc, ça n'est pas une utopie que de rêver, restituer une voix aux choses et aux espaces. J'ai fait un petit montage d'un certain nombre d'objets. Voilà, ils ont une certaine signification musicale. Voilà, je crois qu'il y a aussi une adaptation de l'imagination. Et les musiciens, je crois, ont tout intérêt à accepter la diversité des sources musicales hors du champ purement hors du champ du langage, à vrai dire. Parce qu'aujourd'hui, on a de grandes difficultés, en tout cas dans la musique savante, à sortir du langage et de l'instrument. Même si on a ramené dans la musique des instruments nouveaux, même si nous maîtrisons les techniques de traitement de signal, même si on fait de la musique avec les bruits, il y a toujours ce phénomène de satellisation de ces éléments-là autour d'un noyau, qui est la musique avec un M majuscule. Et donc je pense que si on veut essayer de retrouver les liens fondamentaux de la musique avec le monde environnant, il faut accepter une diversification. Et la musique à venir et à faire, elle sera encore infiniment plus multiple que celle qu'on entend aujourd'hui. Donc il nous appartient de continuer à aller chercher d'autres sources de sons. Je vais faire une chose qui n'est pas modeste du tout, mais ce n'est pas pour ça que je le fais. Je vais vous faire entendre un petit extrait donc, d'une composition musicale qui s'appelle « Le chant des étoiles » que je viens de publier chez Virgin. À vrai dire, ce n'est pas pour la composition elle-même, mais c'est parce que dedans, j'utilise des signaux qui sont transmis par les radiotélescopes et qu'il est possible de transformer en musique. Voilà ce que ça donne. Je suis obligé de changer de disque. Voilà, ce sont des signaux qui viennent du soleil que j'ai récupérés sur le radiotélescope de Nancy. Voilà, pour terminer, je vous dirais que j'ai la conviction, sinon la certitude, qu'il est impossible à l'homme de ne pas faire de musique. Et d'ailleurs, ni autrement et ni mieux. Et pour une raison simple, et c'est Shakespeare qui nous l'a dit, parce que le reste est silence. Merci de votre écoute.
Terre n'a quitté notre enregistrement de combat aérien. J'ai vécu exactement les mêmes circonstances dans le jardin, un combat aérien qui était en 18 mois, et je me suis plongé une cinquantaine d'années en arrière dans une zone de souvenirs que je n'avais pas pu reconnaître. Je vous demandais comment vous avez fait techniquement pour obtenir cet enregistrement, si c'est possible.
Alors j'étais trop jeune pour le faire. Et je dois vous dire que j'ai fait une reconstitution de mémoire. C'est un artifice, celui-là.
Bonsoir, monsieur. J'aurais aimé vous demander si, pour vous, la musique était innée ou acquise. C'est-à-dire, par exemple, pour la quille, il y a des accords. On doit faire des accords pour que la musique soit belle. Alors, est-ce que, d'après ce que j'ai compris, la musique, pour vous, est innée? Moi, je pense qu'elle est aussi acquise.
Vous avez raison, les deux, naturellement. Bien que je ne sois pas normand, je vous réponds que vous avez raison. Elle est à la fois et innée et acquise.
Oui, moi je suis très sensible à la musique de la langue. Et souvent, quand j'ai des amis qui viennent d'un autre pays, qui parlent une autre langue, je leur demande de me réciter les phrases comme en France, on a les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ? Et je pense, en fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt une suggestion, puisque vous voyagez beaucoup. Peut-être pouvez-vous vous amuser à demander aux gens. Et je crois que ça existe un petit peu dans toutes les langues et c'est très sympathique à écouter. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui dans une autre langue, pourraient émettre ces petites phrases qui font appel au son dans une langue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Ce que je peux faire, c'est vous recommander à Bruxelles une exposition sur les langues qui a lieu en ce moment et qui doit venir en France ou qui est aussi... À Lyon, voilà. À Lyon. Sur les langues. Mission 2000 ? Mission 2000.
Madame ?
Bonjour. Vous disiez tout à l'heure que vous n'avez plus entendre. En fait, il faut voir aussi que dans les grandes villes, si on commençait à entendre tous les bruits, on serait complètement abruti, et c'est une manière quand même de se préserver, de garder un calme intérieur. Et si on réagissait à tous les bruits qui nous entourent, on serait complètement fou. Si vous êtes dans une maison où il n'y a aucun bruit, le moindre petit bruit vous éveille et vous réveille. Mais dans une ville, c'est impossible. Donc il y a quand même un moyen de se préserver, et vous pensez que les gens ne savent plus entendre. D'autre part, moi je suis un peu sidérée dans les écoles, que l'éducation musicale se fasse de manière si pauvre et que jamais on demande aux enfants, alors qu'ils ont tous des moyens d'enregistrer, de ramener des choses qu'ils aiment ou de créer quelques musiques, ne serait-ce qu'avec des ustensiles ou des choses comme ça. Il n'y a absolument aucun travail fait à ce niveau. Voilà, je trouve que c'est très dommage.
Alors la question que vous posez, qui est une affirmation d'ailleurs, elle est tout à fait fondamentale. C'est... Effectivement, il ne nous est pas possible de tout écouter, mais comment dire, ce déficit d'écoute fait que nous sommes de grands producteurs de déchets sonores. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Et que moins on sera sensible à notre environnement sonore, et plus il nous sera difficile de le gérer. Notre environnement personnel est un gâchis permanent. Aucun de nous, aujourd'hui, ne maîtrise réellement son environnement. Vous sortez à 1h du matin de chez vous après un joyeux dîner, vous allez claquer les portières de la voiture, vous direz un au revoir bruyant, vous allez réveiller 20 personnes, 50, 100 personnes. Vous ne vous en rendez pas compte. Donc il y a tout un apprentissage de l'écoute à faire, et vous avez raison de dire que plutôt que continuer, pardon à notre ministre, mais sans doute d'utiliser flûte à bec et chant choral, il me semblerait absolument prioritaire d'utiliser les outils que les enfants possèdent et de leur permettre de faire la connaissance de leur environnement. L'homme est quand même, parmi les créatures vivantes, celle qui connaît le moins bien son biotope sonore. Nous ne savons rien de notre environnement sonore, on se met du coton dans les oreilles pour ne pas l'entendre. Et pourtant, on en joue constamment, on en fait de la musique, tout le monde s'émerveille et on tire le rap parce qu'on dit comme c'est formidable, c'est urbain, c'est chic, c'est beau, mais toutes les conséquences qui feraient qu'on pourrait faire mieux que cela, et donc éviter notamment cette production insensée de déchets sonores, là, de ce côté-là, rien n'est fait.
Monsieur ?
Bonjour monsieur, merci de votre remarquable exposé. Une remarque. Ne pensez-vous pas, avec Luciano Berio, que la musique, c'est tout ce que l'on écoute avec l'intention d'écouter de la musique. Le mot d'intention me paraît essentiel.
Bien sûr que vous avez raison, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai ajouté le correctif à tout est musique, mais tout est ma musique. Donc il y a forcément une intentionnalité dans l'organisation que vous faites, des sons que vous écoutez, les préférences que vous n'arrêtez pas de faire en écoutant, c'est évident.
Monsieur ?
Ah oui. Comment est-ce que vous analysez cette phrase-là, que je crois que c'est un titre d'une composition de musique contemporaine ? Tout est bruit pour qui a peur.
C'est vrai, c'est ce que je disais. Les enfants, s'ils font de la musique, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir peur, bien sûr. Et quand on écoute mal un son, quand on écoute mal une musique, je pense qu'elle est du bruit, elle devient du bruit. Et quand on écoute bien un son, il devient de la musique.
Monsieur ?
Bonsoir, monsieur. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que tout ce qui vient d'être dit, est-ce que tout cela ne peut-il pas s'appliquer aussi à l'image ? C'est-à-dire que toutes ces démonstrations que vous avez faites pour l'oreille, est-ce que ça ne s'applique pas aussi pour l'œil ? Et peut-être pour d'autres sens, comme peut-être les odeurs, je ne sais pas.
L'avantage de l'image, c'est qu'elle est incontestable et incontestée aujourd'hui. Elle a une avance considérable sur le son. Le son, même au cinéma, c'est un peu un strapontin. Pour ceux qui ont travaillé, il y a, je crois, des cinéastes spécialistes parmi nous, des experts, le son, bien que travaillé, n'est jamais pris en considération à l'égal de l'image. La preuve, c'est quel critique parlant d'un film fera un commentaire de la bande-son, fera un commentaire de la musique. Jamais. Jamais. Donc le son reste, et la musique reste toujours dans ce champ du supplément d'âme. Ah, vous faites du son, eh ben, donnez-moi de l'émotion. Voilà, donnez-moi de l'émotion. C'est l'émotion ajoutée, mais prime l'image. Oui. Donc je ne crois pas qu'on puisse appliquer les mêmes hypothèses.
D'autres questions ? Oui, mademoiselle.
Bonsoir. Je voudrais savoir ce que vous pensez d'une institution comme la Cité de la Musique à la Villette.
Ça, c'est un peu extra-musical, si je puis dire, parce que c'est une institution. Là, vous me demandez de m'ingérer dans de la politique musicale. Il se trouve qu'à la naissance de la Cité de la Musique, j'ai fait partie du premier conseil de pilotage et d'orientation. Et donc, il y avait eu un certain nombre de souhaits assez utopiques qui avaient été formulés pour cette merveilleuse maison. Comme tous les projets, on jette la ligne extrêmement loin, et puis après, avec le moulinet, ça se rapproche. Et puis, il sort ce qu'il sort. Ce qui est sorti aujourd'hui est bien. Ne me demandez pas d'emporter un jugement. Je ne le connais pas assez.
Monsieur ? Oui, c'est vous.
À l'appui de ce que vous disiez concernant le décalage entre l'image et le son, je pense au téléphone, l'appareil téléphone. Les télécoms, en l'occurrence, ont mis au point des formes de téléphone qui se modent et qui se démodent constamment, en quantité et d'autres marques. Mais par contre, pour ce qui est du son, je pense au son du signal d'alarme selon lequel on vous appelle. Alors là, c'est scandaleux et c'est non seulement un gaspillage de volume sonore, mais c'est une agression de tout le monde et c'est extrêmement pauvre. Si ce n'est pas un signal d'alarme au sens de la sonnerie classique ou des sinusoïdes, c'est une évocation de la 9e ou toutes sortes de choses qui vous dérangent dans l'autobus ou ailleurs, avec les portables. Alors je pense que vous avez certainement un avis là-dessus. Et un personnage comme vous, ne pourriez-vous pas intervenir pour que ce gaspillage et ces agressions nous soient moins agressives ?
Vous me comblez de bonheur en disant ça, bien sûr. C'est un problème majeur, des milliards de téléphones. Et pas un acheteur qui vient le reporter en disant ce téléphone est laid. Le signal qu'il fait est laid. Donc nous avons dessiné, moi j'ai fait 5-6 prototypes de téléphones pour à peu près toutes les maisons. Alcatel, tout ça, tous. On en a fait 5. Les prototypes, ils sont mis dans un placard pour une raison simple, c'est que la concurrence est si forcenée, si féroce, que le pouillène de centimes qu'il faudrait ajouter pour avoir un signal sonore, on va dire, intelligent, fonctionnel, qui n'agresse pas l'oreille, qui soit agréable à entendre, c'est impossible. On ne peut pas introduire ça dans le process industriel. Donc, et comme les gens ne rapportent pas leur téléphone, ils sont contents d'en avoir et qu'ils en vendent 1 milliard par jour, on se demande pourquoi ils feraient un effort. C'est à nous d'être exigeants sur notre environnement sonore. Et voilà, comme on n'est pas exigeants, ben ça donne ce résultat pitoyable. Il y a une malédiction sur l'histoire du téléphone. Parce que même dès la naissance, lorsque Bell a inventé son téléphone, il était là, éparpillé techniquement sur une table, et on a établi la première communication entre New York et Boston. Et c'était formidable, ça marchait et tout ça. Donc, Bell a dit, c'est un outil si magnifique que je voudrais qu'il soit dessiné par le plus grand designer du moment. On est allé chercher Henri Dreyfus, ça a fait un objet de musée. Mais pour le son, est-ce qu'il a dit, je voudrais qu'on aille chercher le meilleur fondeur, on savait, ou quelqu'un qui aurait fait un automate sublime avec un bon compositeur? Pas du tout. On a dit à un ingénieur, faites-nous quelque chose et tout. Il a tiré un tiroir, il a sorti une sonnette quelconque et ça a fait le signal dès l'origine qui était d'une pauvreté invraisemblable. C'est la malédiction qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui.
D'autres questions? Oui.
Oui, bonsoir. Votre démarche est tout à fait passionnante, mais la question que je me pose... Où est la musique, comme vous avez dit tout à l'heure, traditionnelle? Ça va du fond des âges, de la préhistoire, jusqu'aux recherches les plus abouties en matière de musique contemporaine. Et j'y inclus d'ailleurs la musique de jazz. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est selon vous, est-ce que, après toute cette très belle démonstration, est-ce que vous pensez que les musiques traditionnelles sont finies ou sont en voie d'extinction? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je m'aperçois, moi je suis très proche de la musique depuis bien des années, et la formidable méconnaissance qu'il y a de toutes les richesses musicales que nous connaissons dans la musique traditionnelle, et de toute façon, enfin les musiques traditionnelles, je les appelle traditionnelles à dessein, dans la mesure où vous êtes dans... Il y a une projection dans un futur de la musique qui existe aujourd'hui, mais vous projetez quelque chose... Je vois pas du tout où est maintenant le rapport avec la musique en général et dans tous les genres qui existent. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ça vous paraît clair? Alors évidemment, j'y inclus les musiques savantes et populaires, les musiques traditionnelles de tous les continents, hein, je dis bien les musiques traditionnelles, et toute la musique depuis la musique de la Renaissance et du Moyen-Âge avant et jusqu'aux musiques dites contemporaines.
En deux mots, je crois, comme un peu partout, ceci ne nie pas cela. Je m'explique. Nous avons la chance d'avoir une mémoire considérable à notre disposition, dans laquelle il y a toutes les périodes historiques, y compris donc celle de la musique dite traditionnelle. Elle porte son nom, elle est traditionnelle. Donc elle était hier. Ce qui évite à toutes ces musiques de devenir des langues mortes, notamment, puisqu'on peut continuer à les réinterpréter et à les faire vivre. Mais cela dit, ça ne nie pas du tout le fait que la musique, elle doit toujours rester en coïncidence avec son temps, avec les énergies du moment, avec le flux. Voilà, je n'ai rien voulu dire d'autre.
Madame ?
Spécialement la didactique des langues, j'étais très bouleversée par les petits-enfants. Je me suis dit qu'avant d'apprendre le chinois, par exemple, il fallait écouter cet enfant. Donc, tout le monde veut vous faire intervenir quelque part. Donc, moi, je voulais vous demander si votre sensibilité à tous ces problèmes, etc., vous ne pourriez pas le mettre avec tous ces gens qui réfléchissent à l'apprentissage des langues et voilà, sensibiliser les didacticiens. On a besoin de vous, quoi.
On ne peut pas être expert en tout, vous savez.
Oui, mais vous avez des choses à dire.
Des intuitions, rien de plus.
Mais c'est beaucoup dans les langues.
Des intuitions.
Bien, je vous remercie.